Chapitre 51. Une fois au pied de la mesa, Nietzsche et Bannon traversèrent d'un bon pas la bande de terrain relativement préservée. Puis, ils s'engagèrent dans la balafre à un rythme tout aussi soutenu. Lors de la précédente expédition, ils avaient procédé prudemment. Munis d'une arme et d'une destination, Nietzsche ne voyait plus de raison de lambiner. Le gland toujours dans la poche secrète de sa robe, elle était en chemin pour tuer le sorcier responsable de tant de malheurs et de morts, tout ça pour sauver sa misérable petite vie. Aux yeux de la magicienne, le buveur de vie était un monstre à abattre. Pas question de penser à lui comme à un malade terrorisé, et encore moins comme à un érudit tenté de jouer avec une magie qui le dépassait. Pour elle, il n'était pas un type nommé Roland, mais un poison qui se répandait dans toutes les directions, un fléau sur le point de détruire le monde. C'était pour ça que Rouge avait envoyé Nietzsche à la recherche de Colader avec Nathan. Et la magicienne jouerait son rôle. Au milieu du paysage désolé, Bannon avançait sans se plaindre et sa détermination impressionnait sa compagne. Dans la balafre, comme toujours, le vent soulevait des nuages de sel et les fumerolles empestaient. Concentré sur son objectif, Nietzsche ne courait pas, mais elle ne prenait pas le temps de se reposer. Dans cet environnement, elle bouillait d'impatience d'en finir. À ses côtés, Bannon plissait le nez à cause du soufre et surveillait consciencieusement les environs. À un moment, les deux voyageurs passèrent dans l'ombre d'une flèche rocheuse en forme de gobelin. Les branches mortes d'un pin saillaient d'une crevasse au pied de cette tour naturelle. Sans s'arrêter, Bannon but un peu d'eau à sa gourde. « Magicienne ? » demanda-t-il. « Est-il sage de voyager en terrain découvert ? Ne devrions-nous pas essayer de nous cacher pour que le buveur de vie ne nous voie pas venir ?» Nietzsche secoua la tête. « Il sait où nous sommes. Je suis sûr qu'il sent ma magie. Avancer à couvert nous ralentirait, c'est tout. » Quand Bannon lui tendit sa gourde, la magicienne s'avisa qu'elle avait la gorge en feu. Elle but et l'eau tiédasse lui laissa un goût désagréable sur la langue. Quand elle lui eut rendu sa gourde, le jeune homme la remit à sa ceinture, puis il posa la main sur son épée et tourna lentement la tête. « J'ai l'impression qu'on nous épie. » Sondant la zone avec sa magie, Nietzsche découvrit qu'elle regorgeait de formes de vie dénaturées, les animaux capables de s'adapter à l'infestation du buveur de vie. « Beaucoup de créatures nous regardent, mais je m'en fiche tant qu'elles ne s'opposent pas à notre mission. » Si elles essaient, nous le leur ferons regretter. Nietzsche comptait avancer sans pause ni arrêt pour la nuit jusqu'à ce qu'ils aient atteint le cœur de la balafre. Partis de surplomb du monde aux premières lueurs de l'aube, les deux voyageurs perdirent nettement de leur superbe quand arriva le soir. Recuits par le soleil, ils ressemblaient à des statues de marbre à cause des dépôts alcalins. Nietzsche se nettoya tant bien que mal le visage. Après un tel traitement, sa robe noire était au mieux grise. Une fois le soleil couché, le vent souffla plus fort, soulevant des rideaux de poussière et de sable. À la très faible lumière des étoiles et de la lune, normale avec ce voile qui bloquait le ciel, Nietzsche et Bannon continuèrent leur chemin. Autour de minuit, les bourrasques devinrent si violentes que la magicienne n'entendait plus les pas de son compagnon derrière elle. Contraints et forcés, les deux voyageurs se réfugièrent dans une alcôve rocheuse. « Repose-toi tant que tu le peux encore, » dit Nietzsche. « Nous repartirons dans une heure. » « Je peux continuer ?» assura Bannon. Les lèvres craquelées, il avait les yeux gonflés et injectés de sang. « Marcher dans cette tempête de sable serait trop risqué. Sans visibilité, on peut tomber dans un trou, et que faire si le buveur de vie nous envoie des hommes poussières ? On restera ici jusqu'à ce que ça se calme. Dans pas longtemps, j'espère. Je n'aime pas ça, mais il le faut. » Pendant ce répit, Nietzsche utilisa son don pour nettoyer le visage et les yeux de Bannon, puis elle fit la même chose sur les siens. Alors qu'elle procédait, elle sentit la magie se ramasser sur elle-même, prête à se défendre. Quelqu'un l'avait détectée et tentait de s'en emparer. Au cœur de la balafre, le pouvoir d'absorption du buveur de vie gagnait en puissance. Là, il essayait de dominer Nietzsche, désireux de la contrôler et de s'approprier sa magie. Et un sort minuscule avait suffi à l'alerter. Dès que la tempête se fut un peu calmée, rien de très spectaculaire, la magicienne décida de repartir. « On y va !» Sur le terrain accidenté, Bannon eut du mal à suivre le rythme. Sa belle détermination et son énergie inépuisable n'étaient plus qu'un souvenir et ça n'était pas seulement dû à la fatigue. Nietzsche ne chercha pas à se voiler la face. Plus ils approchaient du buveur de vie, plus ils s'affaiblissaient, contaminés par sa magie meurtrière. Des heures plus tard, le ciel rougeoya. Puis le soleil se montra à l'horizon, semblable à des flammes qui montent en rugissant du bûcher funéraire d'un millier d'innocentes victimes d'un massacre. Loin devant elle, Nietzsche repéra le cœur sombre du cratère, un vortex où tourbillonnait la magie tueuse du buveur de vie.
« Douce mère la mer !» souffla Bannon. « Nous y sommes presque !»
Épuisé, il semblait plus soulagé qu'inquiet.
« Nous ne sommes pas encore assez près !»
modéra Nietzsche. Elle tenta d'accélérer le pas et mesura combien le pouvoir du sorcier dément la diminuait. Si le duel n'avait pas lieu très vite, elle doutait d'avoir encore la force de vaincre, même avec l'aide du premier arbre. Le terrain devint encore plus accidenté. Comme si le sol de la vallée morte était sans cesse retourné de l'intérieur, les flèches rocheuses penchaient dangereusement. Tels des éclairs telluriques, de grandes crevasses zébraient le sol et d'énormes rochers renversés témoignaient de la rage aveugle du buveur de vie. Nietzsche et Bannon durent escalader plusieurs obstacles, avancer sur des blocs de roches instables et sauter par-dessus des crevasses d'où montaient des odeurs pestilentielles. Vers midi, sous une chaleur accablante, le repère noir du sorcier semblait toujours être un mirage perdu dans le lointain. Pourtant, la magicienne sentait une présence de plus en plus proche, attentive à leur progression mais pas encore prête à attaquer. Même si elle restait vigilante, son seul véritable ennemi, c'était le buveur de vie et rien d'autre ne devait mobiliser son attention. Les yeux irrités par la poussière, la magicienne vit quand même la grande silhouette qui se dressait devant elle. Un sifflement déchira l'air, et une créature couverte d'écailles, jusque-là bien camouflée, chargea les deux voyageurs. Ouvrant la gueule, elle révéla des muqueuses rougeâtres, deux rangées de crocs pointus et une langue noire bifide. Un lézard géant hérissé de pointes mortelles, avec sur le dos une crête sûrement aussi coupante qu'une lame. La peau constellée de plaies à vif, sa longue queue battant l'air, le monstre était en chasse. Nietzsche recula. Épée au poing, Bannon se campa devant elle. Sur sa droite, puis sa gauche, la magicienne capta des mouvements. Trois autres lézards géants fondaient sur eux. Semblables à ceux que Chardon portait à la ceinture le jour de leur rencontre, ils étaient hélas des centaines de fois plus gros. La taille d'un étalon, estima Nietzsche. Prêt à combattre, Bannon siffla entre ses dents.
« J'ai toujours rêvé de voir un dragon. Dans les légendes, c'est si excitant. Mais ceux-là sont bien réels. »
« Ce ne sont pas des dragons, mais de vulgaires lézards !»
lâcha Nietzsche. Quand les reptiles furent plus près, leur énorme gueule ouverte, elle jugea bon d'ajouter
« Très gros, cela dit !»
Les pieds plantés dans la poussière, Bannon brandit solide. Deux lézards fonçaient comme des taureaux. Les deux autres exécutaient une manœuvre d'encerclement typique. Le sang réchauffé par le cagnard, sûrement affamé, les monstres se déplaçaient avec une grâce meurtrière. Nietzsche tendit les mains et plia les doigts. Se concentrant sur le poitrail d'un lézard, elle localisa son cœur et, au moment où il bondissait, invoqua une onde de feu. Dans d'autres batailles, elle avait utilisé sa magie pour faire bouillir la sève d'un arbre au point que le tronc finisse par exploser. Reprenant ce principe, elle fit chauffer le cœur du lézard afin qu'il implose. Foudroyée, la créature s'écroula. Emportée par son élan, elle creusa une ornière dans la poussière, s'arrêtant quasiment au pied de la magicienne. En principe, celle-ci aurait pu disposer aisément des quatre monstres, mais après sa première frappe, elle se sentit très faible. En utilisant son don, on eût dit qu'elle avait ouvert une écluse au buveur de vie. Même de très loin, il était en train de siphonner sa magie. Dans un passé assez lointain, Nietzsche avait absorbé le pouvoir des sorciers qu'elle tuait. Et voilà que la même chose lui arrivait. Roland lui volait sa vie. En un ultime réflexe de défense, elle invoqua un champ de force pour colmater la brèche où s'engouffrait le buveur de vie. Une menace écartée, elle s'avisa que l'autre demeurait, et désormais plus question de combattre les lézards avec son don. Reculant, elle se cacha derrière le rocher le plus proche. Occupée à contenir le deuxième lézard, Bannon n'avait pas vu la magicienne tituber. Son épée tenue à deux mains, il la leva au-dessus de sa tête puis l'abattit de toutes ses forces. Quand la lame toucha les écailles du lézard, le son rappela à Nietzsche celui d'un marteau sur une enclume. Le coup ricocha sur la carapace du monstre, sans même l'entamer. Bannon frappa de nouveau et n'obtint pas plus de résultats. S'acharnant, il parvint pourtant à faire couler le sang entre deux écailles. Le reptile cria de douleur, recula un instant, puis revint à l'assaut. Bannon frappa à la tête, si fort que des étincelles jaillirent. Quand le monstre ouvrit la gueule, il plia les bras, ramenant son épée en arrière, puis l'enfonça dans le palais rougeâtre. Poussant de toutes ses forces, il transperça l'os, puis traversa de part en part le minuscule cerveau. En retirant sa lame, Bannon trancha la langue bifide qui tomba sur le sol déjà rouge de sang. Oubliant sa victime agonisante, le jeune homme fit face au troisième lézard, perché sur un gros rocher et prêt à bondir. Bannon chercha Nietzsche du regard et vit qu'elle était adossée à un rocher, blanche comme un linge. « Magicienne ?» Mobilisant ses forces, Nietzsche invoqua assez de magie pour arrêter le cœur du lézard. Hélas, elle sentit les serres invisibles du buveur de vie se fermer sur son pouvoir, tel l'écrou d'un chien de chasse sur la nuque d'un lièvre. Juste à temps, elle restaura son champ de force protecteur. Des points noirs dansant devant les yeux, elle se radossa à son rocher. Résolue à ne pas abandonner, elle dégaina son couteau. S'il le fallait, elle finirait ce combat en usant de ses dents et de ses ongles.
« Je me charge des deux lézards, magicienne !»
cria Bannon. En hurlant de rage, il chargea le plus proche et frappa dans une gerbe d'étincelles. À coups redoublés, il fendit une écaille, puis prit pour cible une des plaies rougeâtres. Quand le monstre rugit de haine, il répliqua par un cri presque aussi animal. Depuis le combat contre les Norukai, Nietzsche n'avait plus vu Bannon ainsi. Quelque chose l'avait de nouveau plongé dans cette rage de tuer. Mais sans qu'il perde totalement sa lucidité. Voyant que sa furie ne suffirait pas, il leva son arme et l'enfonça dans l'œil droit du lézard. Le monstre essaya de fuir, mais le jeune homme mit tout son poids dans le cou. Faisant tourner son épée, il transforma l'œil du reptile en une bouillie verdâtre. Le lézard ne consentant toujours pas à crever, Bannon poussa encore plus fort, transperça un os, puis détruisit le ridicule cerveau du monstre. Haletant, le disciple de Nathan tenta de retirer son arme, mais elle était coincée dans la boîte crânienne du lézard.
« Allez, sors de là »
cria-t-il. Rendu prudent par le cours des événements, le dernier lézard sauta de son perchoir et avança vers Nietzsche. Son couteau brandi, elle se prépara à mourir. Quand il bondirait, le monstre la renverserait et elle était bien trop faible pour avoir une chance de le tuer. Alors que le lézard attaquait, la magicienne sentit une présence familière. Puis, elle éprouva la joie anticipée de l'attaque et de la mise à mort et eut l'impression que des muscles énormes jouaient sur son frêle corps d'humaine. Sautant d'un rocher, la puissante panthère atterrit sur le dos du lézard et le déstabilisa en plein bond, puis elle lui planta ses crocs dans la gorge. Ivre de soulagement, Nietzsche se redressa.
« Mara !»
Déchaînée, la panthère arrachait des lambeaux de chair au reptile. Luttant pour sa vie, celui-ci tentait de se dégager, mais il était déjà trop tard. Méthodiquement, Mara labourait la chair fragile entre les écailles en quête d'un organe vital. Dans son esprit, Nietzsche sentit la volonté de tuer afin d'éliminer une menace contre une sœur humaine. Née pour se battre et dressée pour tuer, Mara était aussi programmée pour défendre les siens. Emporté par le lien, Nietzsche brûlait d'envie de déchiqueter le lézard à main nue. Stimulée par la rage de tuer de la panthère, elle se jeta dans la mêlée, sans son pouvoir, mais une lame suffirait. Mra força le lézard à se retourner et à exposer les écailles moins dures sur son ventre. Comme un binôme, Nietzsche et Mra collaboraient harmonieusement. Alors que le monstre fermait sa gueule démesurée, la magicienne lui enfonça sa lame dans la gorge où la peau se révéla beaucoup plus fine et frappa inlassablement jusqu'à ce que la panthère, ayant enfin réussi à ouvrir le ventre du reptile, le vide de ses entrailles puis de ses organes vitaux. Le geyser de sang chassa les dépôts alcalins sur les joues de Nietzsche, qui ne se sentit pas propre pour autant. En revanche, elle retrouva son énergie, mentale pour le moins. Tremblant d'épuisement, elle brûlait en même temps d'envie de reprendre son chemin. Au bord de l'évanouissement, Bannon baissa les yeux sur le dernier lézard, enfin mort, puis regarda Mra avec un profond respect.
« Magicienne, une chance que je t'ai convaincue de ne pas l'achever. »«
Une chance, oui. »
Nietzsche tourna la tête vers la panthère et sentit le lien puissant et incompréhensible qui les unissait. Mra feula de triomphe.
« Ne t'avais-je pas dit que je te serais utile ?»
ajouta Bannon.
« Tu as besoin de moi. »«
J'ai besoin de fort peu de choses, jeune homme. »
Une main en visière, Nietzsche sonda la balafre.
« Pour l'heure, nous devons atteindre la tanière du buveur de vie. »
Elle tapota la poche secrète de sa robe où se trouvait le gland magique.
« Avant qu'il soit trop tard. »